Bienvenue à tous, bonjour à tous même. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui sur la chaîne. On a aujourd'hui un invité absolument incroyable. Je suis ravi d'accueillir Frédéric Canevet sur ma chaîne.
Hello, hello, ça me fait plaisir aussi parce que en fait j'ai repéré ta chaîne sur YouTube et c'est vrai que je me suis dit waouh, putain, deux trois petites astuces que je connaissais pas et je trouve que c'est vraiment original, c'est vraiment sympa et c'est un beau partage que tu fais.
Cool, bah merci, ça fait plaisir, d'autant plus que ça vienne de toi. Moi, ça fait pas mal d'années que je travaille dans le marketing, ça fait pas mal d'années que je connais ton site, Conseil Marketing, que je vous invite vivement à aller visiter. Il y a le lien qui s'affiche actuellement sous cette vidéo. C'est vraiment un site, quand j'ai besoin de faire une veille marketing ou bien de trouver des nouvelles inspirations ou bien des tutoriels qui est vraiment très inspirant. Du coup, Fred, déjà bienvenue sur la chaîne. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu, présenter ton parcours et ton bébé, donc Conseil Marketing?
Alors en fait, c'est simple. Ça fait depuis 2006 en fait que je tiens un blog sur le web, Conseil Marketing. Mais j'ai commencé en fait dans les années 2000, puisqu'en fait, j'ai bossé au départ dans des startups. À l'époque, on était un peu les concurrents de Rue du Commerce et compagnie. Sauf que bon, comme toutes les startups, on a fait start down. Après, moi, je me suis plutôt spécialisé dans un domaine que j'adore, c'est les logiciels. Je suis product manager en même temps que consultant et blogueur sur conseilmarketing.com. Donc j'ai une double activité, ce qu'on appelle un slasher. Il y a pas mal de gens qui font ça. Et ça permet en fait de compenser le fait que parfois le boulot c'est un petit peu chiant, même si en tant que product manager, c'est un rôle qui est vraiment bien parce que tu dois élever un produit comme tu élèves un petit bébé. Donc c'est assez gratifiant. Et donc, j'ai toujours un petit peu hésité entre les deux. Mais bon, là, pour l'instant, je continue encore à faire 50-50, puisqu'en fait, à chaque fois que je me suis lancé en consultant, peu de temps après, à chaque fois, il y a quelqu'un qui me dit, ouais, moi, j'aimerais bien t'avoir à temps plein pour bosser sur mon produit, j'ai des choses à faire, on a un projet, on veut sortir un truc. Puis je me dis, bon, allez, ok, d'accord. En fait, c'est compliqué d'être à mi-temps dans une entreprise, parce qu'en fait, tu suis pas tout, tu suis pas tout l'actualité. Donc, c'est vrai que c'est comme plus sympa, moi j'aime bien être avec les équipes, avancer sur des projets en long terme. Voilà, donc ça c'est mon parcours à moi. Autrement, donc le blog Conseil Marketing, avant j'avais aussi toute une un réseau de blogs. Je crois que j'avais à un moment donné jusqu'à une trentaine de sites internet. Et bien sûr, avec la concurrence qui s'est vachement augmentée, c'est devenu très compliqué d'avoir 50 sites. Et donc, je me suis vraiment centré sur un site internet, conseilmarketing.com. Et ça, c'est vraiment une des conséquences de la masse d'informations et de la concurrence que se livrent les gens tous les jours. Et du fait que même en produisant du bon contenu, maintenant, tu as du mal à sortir du lot. Il faut faire soit des choses comme toi, dire offrir gratuitement ce que les gens font payer pour sortir du lot, ou alors avoir un positionnement un petit peu extrême, faire de la polémique. Tu as par exemple Diaz sur YouTube qui fait que de la polémique. Alors parfois c'est vrai, mais souvent en fait c'est vraiment de la polémique et ça permet de sortir du lot ou faire quelque chose de manière différente. On a parlé tout à l'heure, hein, Stan Leloup qui a fait avec sa chaîne Marketing Mania ce que moi j'appelle de l'infotainment, c'est-à-dire qu'il a mis un petit peu du côté fun dans du côté informatif. Et c'est un petit peu, je trouve, sa patte, sa spécialité. C'est-à-dire qu'en fait, il prend un sujet grand public, etc. Et puis, il le met, il donne un truc intéressant. Et ça permet d'aller toucher la cible du marketing, mais en même temps d'aller au-delà de sa cible. Et ça, c'est vraiment une grosse tendance que je vois aux States. C'est-à-dire que de plus en plus de vidéos mêlent en fait des trucs sérieux et en fait des petits gimmicks, des petits montages, etc. Enfin, quand tu fais de la vidéo, en tout cas, pour rendre le truc un peu plus fun, parce qu'autrement, tu as un temps d'attention qui est vraiment limité. Donc, voilà, ça, c'était donc le blog. Après, bien sûr, j'utilise du multicanal avec un podcast, une chaîne YouTube, etc., même si ce n'est pas ma priorité. J'ai écrit plusieurs bouquins aussi. Donc, le gros hacking, c'était un des premiers bouquins sur le gros hacking en France, parce qu'en fait, c'est vraiment ce que moi, ça m'a vraiment résonné. Parce que tout simplement, le gros hacking, moi j'en faisais un petit peu comme toi. C'est-à-dire que j'essaye de mettre des trucs en place, je teste des trucs, j'ose aller un petit peu à la limite de la ligne jaune, parce que autant au boulot, tu as du mal à faire ça. Moi je sais que par exemple, recruter une assistante virtuelle à Mada ou à l'île Maurice, c'est compliqué au boulot parce qu'ils disent ouais, il faut une facture, machin. Mais en tant que à titre perso, tu peux faire tous ces trucs-là. Et ça, c'est intéressant quand tu es entrepreneur, infopreneur, start-upper, c'est que tu peux aller casser les codes, tu peux faire des choses qui sont totalement originales et oser faire des choses différentes. Moi, je sais qu'à mon boulot, il y a plein de choses, je sais très bien que ça marchera jamais, quoi. Enfin, ça passera jamais. Voilà. Donc ça, c'est ma petite passion, faire du gros hacking, tester des trucs. Et bon, bah, j'essaye un peu comme beaucoup de monde, d'essayer de concilier le boulot, ma passion qui est mon blog, et la vie de famille. Et ça, c'est compliqué, surtout en période de confinement. Mais je ne sais pas si tu voudras qu'on en parle tout à l'heure.
Si, on pourra en parler, ouais, carrément. Bon, ça fait déjà beaucoup d'informations que tu viens de donner, là. J'aimerais rebondir sur deux choses. La première, tu parlais de cette sorte de hacking de news et de vulgariser, en fait, au maximum pour que le temps d'attention soit un peu plus long sur des vidéos, surtout sur des thématiques qui sont aussi pointues, des fois, qui peuvent être un peu compliquées à acquérir comme connaissance. Enfin, vulgariser du gros hacking ou du marketing, c'est pas forcément à la portée de tout le monde en termes d'assimilation d'informations. Et le fait de faire des montages un petit peu fun, ça peut jouer justement. Et Stan Leloup a vraiment très bien réussi ça.
Ouais, tu as aussi Steph de Stratège Marketing qui s'est spécialisé il y a déjà quelques années dans le dessin animé. C'est-à-dire qu'en fait, il fait des petits montages vidéo pour expliquer des choses de manière grand public. Et c'est vrai que ça lui prend du temps, mais c'est un petit peu sa patte, sa marque de fabrique. Et grâce à ça, il arrive donc à avoir une communauté. Après, le gros problème de la chaîne YouTube ou de Steph ou même moi, c'est qu'en fait, il faut monétiser cette audience-là. Et c'est pas forcément évident parce que tu peux très bien faire comme les YouTubeurs des millions et des millions de vues et finalement faire relativement peu de chiffre d'affaires parce qu'en fait, tu parles d'un problème mais tu n'arrives pas en fait à les faire aller vers le produit final pour résoudre le truc. Soit en fait, tu es un petit peu trop éloigné, puis les gens, de toute façon, ils ont eu leur réponse, ils ont eu leur truc et puis ils partent derrière. Donc, c'est ça un petit peu le souci.
Là, le paradoxe aussi dans les vidéos sur YouTube, moi, la raison pour laquelle j'ai lancé ma chaîne, c'est parce que j'en avais justement assez de voir des YouTubeurs qui cherchaient à monétiser à fond leur audience et qui ne donnaient vraiment peu ou pas d'informations sur des vidéos qui duraient 20 minutes. C'était vraiment, enfin, c'était insupportable. J'en avais marre. Des fois, je cherchais des tutoriels précis, poussés, et je les trouvais pas. Et c'est vraiment ça qui, à la base, m'a fait
En fait,
monter.
c'est justement c'est la force, c'est la ligne éditoriale. Il faut
Ouais,
se
et
différencier des autres.
tu parlais de la différenciation, justement, qui se fait avec la patte que tu vas apporter dans la création de ton contenu. Et aujourd'hui, enfin, comme tu l'as à juste titre souligné, il y a beaucoup de concurrence, tant sur les mots-clés, sur le SEO, et on en parlera juste après, mais également sur la création de contenu, parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui se lancent dans l'infoprenariat. Il y en a qui le font très bien et qui réussissent, c'est pas comment ils font, extrêmement rapidement. Il y en a d'autres, par contre, qui ont une valeur ajoutée qui est vraiment énorme, mais qui, comme ils n'arrivent pas à la communiquer en la vulgarisant suffisamment bien, eh ben, malheureusement, ils passent un petit peu dans l'ombre parce qu'ils n'arrivent pas, en fait, à s'adresser de manière correcte à une audience qui pourrait vraiment être intéressée par ce qu'ils souhaitent dégager comme information.
Exactement.
Est-ce que tu pourrais nous expliquer rapidement comment est-ce que, là on est en 2020, tu as lancé ton site en 2006, tu as su naviguer à travers le temps en termes de SEO, puisque tu l'as justement dit, il y a pas mal de concurrence de plus en plus. Comment ça se passe pour toi depuis que tu as lancé et surtout maintenant, quelle est ta stratégie de manière à rester quand même en haut du tableau?
Alors en fait, ce qui est intéressant, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, est tout à fait ce qui résonne à ce qui s'est passé il y a allez, 15 ans de ça. Puisqu'en fait, il y a 15 ans, en fait, personne ne publiait du contenu intéressant sur web comme toi tu le fais avec ta chaîne. En fait, tu trouvais que des trucs assez gnangnang, il n'y avait rien d'intéressant. Et moi, en fait, c'est ce qui m'a fait sortir du lot à l'époque, c'est que je donnais des vrais conseils. C'est-à-dire que comme toi maintenant avec ta chaîne, j'en avais marre de retrouver tout le temps les mêmes trucs qui ne servaient à rien. Et donc, en fait, j'ai essayé d'être super précis. Et enfin, super précis, d'aller dans le détail et faire un article de qualité. À l'époque, je faisais des articles de 500 à 1000 mots, on va dire. Et c'était vraiment déjà là, 500 à 1000 mots, les gens disaient, waouh, t'as fait un truc de qualité et c'est top, quoi, tu vois. Donc, en fait, il faut vraiment… ça, c'était à l'époque. Maintenant, en fait, c'est totalement dépassé. Pour espérer sortir du lot, c'est même plus la peine de dire juste « je vais créer un bon contenu ». Si tu n'as pas une bonne stratégie de promotion, voire de gros hacking, eh ben, en fait, tu vas rester un inconnu célèbre. Tu feras un super article, tu feras un super truc, mais tu auras beaucoup de mal à remonter dans les résultats. Donc, en fait, il y a plusieurs choses. Un, déjà, il faut produire un contenu qui va être optimisé. Pour moi, dans le marketing, je me dis que pour espérer pouvoir ressortir sur un mot-clé particulier qui n'est même pas hyper concurrentiel, mais qui est juste un tout petit peu concurrentiel, il faut minimum 2500 mots. Et j'ai même des dossiers que j'ai créés qui font, je pense, 8 000 ou 10 000 mots, quasiment l'équivalent d'un livre blanc. Alors, comment je fais pour continuer à être présent là-dessus? C'est-à-dire qu'en fait, j'essaie de travailler sur mes articles piliers. Parce que si tu regardes sur ton site internet ou n'importe quel blog, généralement, tu as les 20 articles qui font la majorité de ton trafic. Et donc, moi, très régulièrement, je revisite, je remets à jour mes articles existants. Et c'était un gros travail que j'ai fait quand je me suis pris une petite claque avec Google il y a, oh, je crois que c'était un an et demi, parce que j'écrivais mon bouquin sur le growth hacking V1, j'avais aussi plein de trucs à faire. Et donc, j'avais un peu délaissé le blog et je m'étais pris une petite baisse, mais vraiment régulière, et je n'avais pas fait gaffe au départ. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai renforcé mes articles piliers. Donc, je me suis pris de deux manières. La première, en fait, première stratégie, première solution simple, modifier le contenu, supprimer les liens cassés, remettre des images, remettre un sommaire, etc., etc. Et pour cela, en fait, j'ai utilisé un bon plugin qui s'appelle Rank Math SEO, qui est super sympa, qui ressemble beaucoup à Yoast SEO, un petit peu plus complexe, mais un peu plus complet, qui donne vraiment pas mal de facteurs de ranking. Et maintenant, à chaque fois que j'écris un article, je fais vraiment attention à ça. Et j'ai repassé mes anciens articles aussi avec ce plugin-là. Et donc, j'ai vérifié que j'ai bien sûr les mots-clés dans les URL, dans les titres, mis un sommaire, mis des images, mais ceci, cela. Donc, production de plus de contenu. Deuxième chose, j'ai également payé une boîte pour, en fait, écrire du contenu. C'est-à-dire que je leur disais, ben voilà, tiens, tu vois cette thématique-là, je veux que tu renforces cet article. Donc, j'avais l'article que j'avais au départ, que j'ai moi-même actualisé. Et en seconde partie, je lui ai dit, ben tiens, ou alors à l'intérieur des parties, je dis, tu vas me renforcer ça. Et soit en fait, si ce n'était pas trop compliqué, je disais, bah, vas-y, tu sais à peu près ce qu'il faut écrire ça. Soit en fait, je faisais ce que j'appelle moi la production de contenu guidé. Alors, c'est à la limite du légal, on va dire que c'est du gros hacking. C'est-à-dire qu'en fait, je vais sélectionner à peu près, on va dire, allez, une page. En Google Docs avec des copier-coller de petits extraits, de petites bonnes idées, de bonnes pratiques et tout ça, de différents blogs, souvent en fait des blogs américains. Et en fait, je dis, ben voilà, tu vas me renforcer là-dessus, voilà tes 20 idées, 30 idées ou 5 idées ou X idées que tu vas reprendre. J'essaye de ne pas faire trop de rédaction parce qu'autrement, ça te revient à toi-même à rédiger, mais tu dis, ben voilà, idée numéro 1, c'est ça, je mets généralement en français le terme ou alors si c'est en anglais. Je le mets juste en anglais et je dis voilà ce que tu vas mettre dedans. Et je mets des petits extraits, des copier-coller sans trop me faire chier pour que, même si c'est un peu doublon et tout ça. Et avec ça, la personne, en fait, elle est capable de te rédiger un article qui va à peu près tenir la route parce qu'en fait, moi, j'ai un très haut niveau de qualité. Pour mes articles, à chaque fois, même en mode rédaction comme ça, assisté, bah, je refais pas mal, il manque des choses. Un autre exemple, j'ai aussi voulu me positionner sur des mots-clés un peu plus difficiles, par exemple, les outils de growth hacking. Ça, c'est un article que j'ai sorti il n'y a pas très longtemps. Et ça, en fait, je suis passé par mon assistante à 100%, allez, à 80% pour le faire. Je lui ai dit, ben voilà, Sabrina, ce que tu vas faire, je te file 3-4 listes de top outils de growth hacking. Donc, je lui ai filé des sites US qui listaient tel outil, tel outil, tel outil. Et je lui ai dit, ben voilà, dans celui-là, tu me prends ça, mais par contre, tu ne prends pas cette catégorie-là parce que moi, je n'étais pas à l'aise, ce n'est pas quelque chose que je voulais mettre dedans. Je lui ai filé ça, je lui ai dit, ben voilà, tu vas mettre un titre. Un prix, tu vas mettre une capture écran et tu vas en fait me rédiger tout ça. Alors, elle a mis pas mal de temps, plus de temps que moi-même, mais ça permet d'avoir un support. Ensuite, j'ai rajouté à cet article-là, on va dire, allez, quelques ressources supplémentaires que j'utilisais moi, qui n'étaient pas dans ces fameux sites américains que j'avais listés. Et ensuite, bah voilà, j'ai cité aussi dedans quelques petits influenceurs. Et comme je te disais, même avec un super article comme ça, même avec une, bah, entre guillemets, ta communauté et tout ça, t'arrives pas à cartonner. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'après, j'ai été sur LinkedIn, j'ai été cibler tous les gens qui avaient dans leur profil gros hacker ou gros hacking, et je leur ai envoyé un petit message avec un outil qui s'appelle LinkedIn Helper en disant, tiens, salut, je suis en train de mettre en place une top liste d'outils de gros hacking, j'aimerais avoir ton avis, est-ce qu'il en manque ou pas, etc., etc. Est-ce qu'il y a des ressources que pour toi tu devrais ajouter? Et d'un côté, un, il y a des gens qui m'ont ajouté des ressources très pertinentes que je connaissais pas et que j'ai ajoutées avec grand plaisir. Et deux, en fait, j'ai eu du relais, j'ai eu de la visite, j'ai eu du temps passé sur la page, ce qui permet en fait d'améliorer le référencement. Donc voilà, donc stratégie numéro un, comme tu le disais, c'est revoir tes articles, publier régulièrement et surveiller ça comme de l'eau, du lait sur du feu, de feu plutôt, pour vraiment essayer de les réoptimiser régulièrement, changer la date et les mettre à jour. Par exemple, là, pas plus tard que hier, tu vois, j'avais fait un vieil article sur le matériel pour faire des vidéos, quoi. En temps de confinement, c'est un peu le truc. Et donc, en fait, j'ai comme ça actualisé mon article avec deux, trois trucs en plus. Je l'ai reboosté. Ça m'a pris une petite demi-heure. Et je l'ai réactualisé à la date, pas du jour, parce que ça fait l'article n'est pas encore parfait, mais j'aurais pu le faire. Et en fait, tac, je remets à jour. Et parfois, les gens sont étonnés parce qu'ils disent « Waouh, Fred, mais comment tu fais pour écrire du contenu comme ça? C'est un truc de malade, ça fait 5000 mots. » Mais je leur dis pas « Mais attends, cet article-là, il a 5 ans, ça fait 3 fois que je réactualise. » Et voilà. Et donc, en fait, les gens, quand tu as un article plié comme toi, quand tu fais une super vidéo, les gens disent « Waouh, c'est un truc top, bravo. »
Donc, en fait, recycler ton contenu, ça te permet de booster ton SEO sans forcément… t'imposer une charge de travail énorme à recréer un article de toute pièce de 5000 mots ou plus.
Oui, voilà, exactement. Parce qu'en fait, créer un article de 5000 mots, c'est hyper long. Même avec les techniques que j'utilise, c'est vraiment complexe. Après, moi, j'écris aussi, là, je te donne des techniques un peu limites, mais j'écris aussi mes contenus moi-même. Hein. Je fais beaucoup de textes moi-même et parce que j'ai un niveau d'exigence vraiment élevé. Mais ça, c'est vraiment intéressant. Souvent, en fait, moi, j'utilise aussi un assistant pour créer une première partie de contenu et ensuite l'améliorer moi-même. Parce qu'en fait, en ayant testé pendant 5 ans, j'ai testé au moins une dizaine de rédacteurs, je me rends compte vraiment que tu ne peux pas arriver à du bon contenu. Et enfin, au niveau de contenu excellent que moi je souhaite. Ouais. Et donc, en fait, je suis obligé toujours soit de refaire un peu, soit en fait, je pars du parti pris que. De toute façon, ça ne sera pas exceptionnel. Donc, ce que je fais, c'est qu'en fait, je leur demande une base que j'améliore moi-même. Et c'est par exemple le cas de LinkedIn. Là, tu vois, en fait, j'ai sorti une formation sur LinkedIn qui est assez sympa comme toi, qui est une formation que tu as une très bonne formation sur LinkedIn. Et donc, en fait, je me suis dit, putain, Fred, tu as sorti un produit, mais à quoi ça sert? Tu vas le pousser sur ta liste, ok, tu vas faire des ventes. Mais comment les gens ils vont venir sur ton blog et ils vont acheter le truc. Donc après, tu as l'autre méthode, donc c'est bien sûr aller faire du push et utiliser LinkedIn, cibler les gens, etc. etc. Tiens, je te donnerai une petite astuce en même temps d'ailleurs. Et donc en fait, tu vois, j'ai fait ça, mais je me dis, merde, il faudrait que tu fasses mieux. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé deux outils. Le premier qui s'appelle SEMrush et le deuxième qui s'appelle Ubersuggest. Okay. Et en fait, j'ai regardé dans les expressions les plus fréquentes ce que les gens tapaient lié à LinkedIn. Par exemple, profil de photo LinkedIn, LinkedIn Premium gratuit, des choses comme ça. Mm-hmm. Et en fait, j'ai créé des pages spécifiques là-dessus. Et là, j'ai utilisé deux techniques. Soit en fait, j'ai fait moi-même tout le contenu de A à Z, soit tout simplement, en fait, j'ai sous-traité une partie. C'est-à-dire que j'ai demandé à mon assistante Sabrina de faire un embryon de contenu qui est comme correct. Et ensuite, moi, je le rebooste, je remets des choses sympas. Souvent, ce qui est facile de la faire, c'est par exemple des petits tutos ou alors des modes d'emploi, des choses comme ça. Donc, grâce à ça, donc sélection des bons mots-clés avec Ubersuggest et SEMrush, plus production de contenu, et ben en fait, tu arrives finalement à te positionner sur des contenus liés à ta thématique.
Ubersuggest, SEMrush, excuse-moi, je t'ai interrompu. Est-ce que tu utilises les versions payantes? Est-ce que tu as des licences pour ces deux outils ou est-ce que les versions gratuites suffisent pour tes analyses?
Alors, SEMrush, pendant pas mal de temps, j'avais une version payante. C'est $70 par mois.
Ouais, c'est un peu cher. Hein.
Mais comme j'ai une création de contenu qui s'est un petit peu allégée parce qu'avec mon actualité, des choses comme ça, j'ai arrêté. J'utilise deux choses. Soit en fait, quand j'en ai vraiment beaucoup besoin, j'utilise un compte d'essai 7 jours. Et avec ça, tu peux quand même faire pas mal de choses. Soit en fait, j'utilise tous les jours la version gratuite pour regarder un peu ce qui se passe au niveau de mon référencement, voir un peu comment ça bouge, etc., etc. Ubersuggest était totalement gratuit jusqu'à peu. Maintenant, ils sont passés à $9 ou $10 par mois. Le problème d'Uber Suggest, c'est comme la qualité des mots-clés est moins bon, ils t'estiment des volumes de trafic qui ne sont pas exacts, les mots-clés sont quand même moins précis. Néanmoins, si tu ne veux pas te prendre la tête et avoir un outil gratuit, t'as 50% de la puissance de SEMrush dans un outil qui est gratos, enfin gratos, quasi gratos. Voilà, donc
alors, Uber Suggest avant avait segmenté les recherches, les volumes de recherche entre YouTube et Google, et maintenant ils ont imbriqué tout ça ensemble. Est-ce que tu aurais un outil à conseiller pour faire des recherches spécifiques uniquement sur Google ou uniquement sur YouTube ?
Alors moi, je te dirais que YouTube, pour moi, c'est plutôt de l'accessoire. En fait, il n'y a pas très longtemps, il y a encore quelqu'un qui me disait « Mais Fred, tu devrais te mettre sur YouTube, il y a un putain de trafic, tu peux créer du relationnel avec les gens, etc. etc. » Je dis « Mais ouais, c'est vrai, mais moi, en fait, j'ai un historique, j'ai un blog qui génère du trafic et je vais pas aller… me concentrer trop sur d'autres canaux de plateforme. Je préfère faire du multi-réseau et multi-canaux. Par exemple, tu vois, quand je fais un super article de blog, systématiquement après, je fais un screencast. Ce screencast, je le mets sur YouTube, je le mets sur mon podcast, je le mets sur SoundCloud, je le mets un peu à droite à gauche. Et comme ça, en fait, ça me permet d'aller cumuler les choses. Comme par exemple, lorsque je fais un article de blog, je prends toutes les images, je les sauvegarde toutes dans un répertoire particulier. Par exemple, là, j'ai fait une série d'articles sur LinkedIn, j'en ai fait 4-5. Et en fait, j'ai mis toutes les photos dans un répertoire qui s'appelle Article LinkedIn. Et une fois que je suis arrivé à 50 ou 100 photos, photos, images, illustrations, peu importe, et ben en fait, je les upload en automatique sur Pinterest avec Ninja Pinner. Et donc, en fait, tac, ça me permet de faire un peu de LinkedIn vers un article. Pas tous, mais un article que je poussais en priorité. D'accord. Donc ça, j'essaie vraiment de penser multicanal. Alors, il y a une vidéo, il y a un outil que j'utilisais pas mal en fait sur YouTube. C'était Video IQ, si je me souviens bien, qui permet en fait de trouver des suggestions de mots-clés, qui permet de modifier en masse des trucs. Mais depuis qu'il y a le Creator Studio, je trouve que c'est un outil qui est un peu moins pertinent. Parce qu'à l'époque, c'était compliqué d'aller changer en masse tous les tags, tous les mots-clés, etc. Sur YouTube, c'est vrai que c'est pas ma priorité. Ce que je fais généralement, j'essaie bien sûr de choisir les titres qu'il faut, les tags, les mots-clés. J'essaie d'être aussi dans les vidéos suggérées en copiant exactement le nom de la vidéo d'une vidéo qui cartonne bien dans YouTube, qui est dans le top des recherches pour le mot-clé. Et j'espère comme ça être pris dans les suggestions. Mais ce que j'utilise. Ouais.
Vas-y, je t'en prie. Justement, cette suggestion de vidéo d'une vidéo ciblée ou pas ? Tu as déjà eu des résultats ?
Alors, j'ai pas fait de résultat, j'ai pas malheureusement testé, mais je vois qu'en fait dans les résultats de YouTube, quand tu vas dans les stats, tu vois bien que dans les vidéos suggérées, j'ai quand même augmenté par rapport à avant, où ben, finalement en vidéos suggérées, j'étais relativement peu présent. Mais si tu regardes ma chaîne YouTube, tu verras que je suis pas super bon parce que par exemple, je ne mets pas de miniature, je fais quasiment zéro montage, mais pour compenser mon zéro montage, j'essaie de faire du zéro blabla. Parce qu'en fait, c'est une des différences. Si tu perds l'attention des gens, bah, très rapidement, bam, ils vont quitter ta vidéo et tu ne vas pas avoir un temps de visionnage très important, etc. Donc, j'essaie de concentrer, quitte à parler un petit peu vite, mais essayer d'apporter un maximum de valeur en un minimum de temps pour y arriver. C'est marrant. Alors, tu as une petite astuce YouTube. Je ne sais pas si tu fais partie d'un pod, mais moi, en fait, j'ai un pod WhatsApp. J'ai plusieurs pods WhatsApp, dont un pod spécial LinkedIn où on est là pour booster en fait nos publications avec des vrais comptes, hein, pas avec des comptes fake. Et aussi, j'utilise des outils comme par exemple Blampod qui permettent en fait de booster un peu ton truc, même si ça marche un peu moins bien. Mais donc, j'ai un groupe WhatsApp sur LinkedIn pour booster ses publications. Mais j'ai également un pod YouTube. C'est-à-dire qu'en fait, on est une petite quinzaine, une petite dizaine sur ce groupe-là. Et donc, en fait, dès qu'on sort une vidéo, automatiquement, bah, on la publie dans ce groupe WhatsApp. Et en fait, on est tous à commenter et à liker et à visionner la vidéo si possible jusqu'au bout. Okay. Ce qui fait que dès le départ, en fait, tu vas avoir une bonne stat et ta vidéo va être un peu mieux placée que d'habitude.
Alors, c'est une bonne stat, mais du coup, l'algorithme YouTube va déceler que c'est du trafic externe et que ce n'est pas de la recommandation. Du coup, est-ce que véritablement la vidéo va être mise en avant ou est-ce que YouTube va détecter que tu utilises ce genre de technique parce qu'ils sont malins ainsi?
Bah, c'est vrai que ça sera jamais aussi bon que quelqu'un qui va taper dans le moteur de YouTube, qui va faire ci, faire ça. Mais c'est quand même
une présence organique et quelqu'un qui arriverait sur ta vidéo verrait qu'il y a déjà des gens qui ont commenté et qui ont liké, du coup, ça lui donnerait envie de regarder un peu plus.
Ouais, et puis de toute façon, dès le départ, dès que tu as des gens qui restent longtemps, un temps de visionnage qui est long sur tes vidéos, dès que tu as des gens qui commentent, si toi tu commentes derrière, si toi tu likes, etc., tout de suite c'est mieux qu'une vidéo, j'en vois encore beaucoup, hein, des vidéos où tu as zéro like, zéro comment, 15 vues. Tu vois, tu pars mal. Là, en fait, ça va pas être comme je disais, moi, YouTube, c'est pas mon truc prioritaire, mais ça permet d'avoir un petit truc en plus, quoi. C'est, au lieu d'avoir zéro, au moins, tu auras un petit truc. Je te dis pas que c'est la solution miracle. Par exemple, t'as pas mal de gens qui utilisent, en fait, la technique. C'est, pour essayer d'avoir plus de visibilité sur YouTube, qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient directement dans leur newsletter le lien vers leur vidéo au lieu d'envoyer un lien vers un article de blog. Tout de suite, là, forcément, t'as un boost de vues, un boost de commentaires, un boost de likes, et forcément, ça marchera beaucoup mieux que laisser ta vidéo toute seule. Mais bon, à un moment donné, moi, tu vois, j'avais aussi testé l'achat de vues sur YouTube, hein. J'ai retesté encore il y a 2, 3 mois. Et tu sais, sur des outils comme Fiverr ou des choses comme ça, tu peux acheter X vues pour 30 euros. Forcément, ça donne pas, c'est pas des vraies vues. YouTube les détecte et c'est pas des vues, comment dire, qui ont de la valeur parce que souvent, en fait, c'est des vues sur des mobiles, c'est des vues avec des gens en Inde, voilà, c'est pas bien considéré. Le pod WhatsApp est quand même, pour moi, un peu plus pertinent parce qu'en fait, c'est des vrais comptes, c'est des vrais gens et c'est pas des choses un peu fake, quoi.
Et le pod, c'est toi qui l'as créé ou tu as été invité par quelqu'un dans ton réseau à participer?
Alors en fait, le pod LinkedIn, j'ai été invité. Le pod YouTube, c'est pas moi qui l'ai fait. Par contre, là, je suis en train de voir en fait avec un groupe d'amis pour se faire un pod multi-réseau et pas en fait juste LinkedIn ou que YouTube, etc. Et essayer de sélectionner. Parce qu'en fait, le problème souvent de ces pods-là, c'est que bon, tu likes, mais des fois, il y a des vidéos où tu dis bon, allez, je le fais, mais je suis pas hyper convaincu. Voilà. Heureusement, en fait, c'est sur LinkedIn que ça me gêne un peu plus, parce que c'est un réseau où on voit ce que tu fais. Sur YouTube, personne verra en fait tes trucs, donc c'est moins problématique. Et donc là, ouais, pour l'instant, en fait, faute de temps, je l'ai pas fait moi-même, parce qu'en fait, mine de rien, si tu veux le faire de manière vraiment sérieuse, il faut essayer de modérer un petit peu les choses. Moi, tu vois, par exemple, j'ai un groupe qui s'appelle les Community Managers francophones. Je suis co-administrateur, hein, du groupe, mais je suis un des plus actifs sur le groupe. En fait, ça prend déjà énormément de temps. Et un groupe WhatsApp aussi, ça bouge pas mal. Et donc, le problème, c'est que tu vois, là, même j'ai arrêté les notifs WhatsApp sur mon téléphone parce qu'autrement, tu t'en sors plus, quoi. Et un des problèmes, en plus, dans cette situation de confinement, c'est qu'en fait, beaucoup de gens se laissent distraire. Et même moi, tu vois, qui étais très focus, je commence à me laisser distraire de temps en temps. Je dis, tiens, je vais faire un tour sur les réseaux. Et là, tu pars sur LinkedIn, Facebook, Twitter, Insta, Pinterest. Tu fais la série. Et finalement, tu vois, ça va me prendre 5 minutes. Et un quart d'heure après, tu es dessus. Puis, suite, tu vois une vidéo sympa, tu te fais appeler par YouTube. Donc, en fait, il faut faire vraiment attention à ça et essayer de ne pas perdre trop de temps. C'est pour ça que moi, j'essaie de travailler en bloc là-dessus. Et toi, ce groupe WhatsApp, je pense que je vais le créer à la rentrée, là, justement, en liaison avec le groupe, les community managers francophones, parce que il va falloir se soutenir un peu et avoir un petit peu un effet de masse à la rentrée. À la rentrée, à la sortie, quoi, en fait.
J'ai trouvé un truc pour être encore plus productif. J'ai supprimé toutes les notifications de mon téléphone, absolument toutes, sauf les SMS quand j'ai besoin de récupérer des SMS de confirmation avec du dual login. Mais ça fonctionne bien. Après, il y a quand même des moments où ton esprit, il a l'habitude d'aller zoner pendant une demi-heure sur YouTube ou sur Facebook.
Et ça c'est terrible. Et on s'en rend pas compte du temps que l'on perd comme ça, quoi.
C'est clair. Bon, il y a des applications qui permettent de traquer justement le temps que tu passes sur les
Rescue Time.
Ouais. Et
Alors j'ai utilisé pendant un certain temps et puis le truc c'est que ça fonctionne que sur navigateur, enfin surtout sur navigateur.
on a son mobile aussi.
Ouais,
Ton téléphone, par exemple. C'est impressionnant.
et c'est un vrai enfin après moi je trouve que c'est un vrai tracking et bon je suis un peu moins ouais, je trouve que c'est j'essaye de modérer moi-même.
Ça me faisait flipper déjà, et puis enfin, ça me faisait flipper de voir les stats, et puis parce que au final, ça avait une incidence sur la façon dont j'utilisais mon téléphone et dont je naviguais, donc au final, j'ai décidé de le retirer.
Ouais. Alors, si tu veux que je te donne deux, trois autres petits
N'hésite.
trucs et astuces sur le SEO, hein. Après, quand je veux vraiment me positionner sur un bon mot-clé, par exemple, il n'y a pas longtemps là pour ma boîte, je travaillais sur les callbots. Il ne faut pas hésiter, de manière raisonnable, à faire de l'achat de liens. Alors, même si c'est décrié, même si ceci, même si cela.
Ça vaut le coup.
Fonctionne encore. Par exemple, tu vois, je voulais me positionner sur le mot-clé Callbot et donc je connais un gars qui a un bon réseau de sites et j'ai acheté pour aller quoi 50 balles, 50 balles, 3-4 liens, non pas, 2-3 liens, mais de qualité sur des, enfin, de qualité, des sites corrects. J'ai par contre fait rédiger moi-même le contenu pour que ça soit à peu près clean et tout de suite, boum, du bas de la page ou voir la page 2, bim, je suis arrivé dans les premières positions. Donc voilà, même s'il faut pas faire tout et n'importe quoi, ça permet quand même encore de booster un petit truc. Voilà.
Est-ce que tu
L'autre point, c'est d'aller voler le trafic de ses concurrents. Moi, je le faisais en fait régulièrement. Là, j'ai un petit peu moins de temps, mais j'allais voir en fait chez les blogs qui sont concurrents de moi, de mon site, voir si j'avais en fait la possibilité d'aller prendre quelques expressions. C'est-à-dire que, par exemple, je vais sur webmarketing.com, je vais sur un blog machin, je vois en fait qu'il y a un mot-clé qui lui attire vachement de trafic, qui est en rapport avec mon actualité à moi. Qui est pas trop compliqué, c'est-à-dire pas trop compliqué, c'est-à-dire que c'est des articles qui sont plutôt petits, genre 500 ou 1000 mots, c'est des articles qui sont pas très beaux, c'est des articles qui sont un petit peu anciens, etc., etc. Je dis bah tiens voilà, hop, je peux faire mieux. Et généralement tu fais deux fois mieux, c'est-à-dire que tu fais deux fois plus de contenu, tu fais si possible tu essayes de choper des liens et tu fais plus de partage sur les réseaux sociaux. Moi régulièrement, tu vois, j'ai dans mon buffer et puis j'ai également utilisé Swello et j'ai utilisé d'autres outils pour republier de manière régulière sur Twitter et sur les réseaux certains articles. Et là, forcément, bah, ils vont être boostés parce que régulièrement, il y a du monde, régulièrement, il y a ceci, régulièrement, il y a cela. Donc ça, c'est le truc vraiment simple que j'invite bah, tout le monde à faire parce qu'en fait, vous n'avez pas le monopole des bonnes idées et des bons mots-clés. Et parfois, comme ça, on peut les capter un peu de trafic.
Ça marche. Merci pour tous ces conseils. La troisième partie de cette vidéo, on va parler un peu plus d'inspiration, de veille marketing, justement, parce que tu as énormément de process avec tes deux casquettes, en tant que product manager et en tant que rédacteur sur ton site. Comment est-ce que tu fais pour trouver de l'inspiration régulièrement et quels sont les blogs qui t'inspirent, que ce soit aux US, tu en as parlé tout à l'heure, ou des blogs peut-être un peu plus francophones? Que tu pourrais conseiller en plus de conseils marketing à ceux qui.
Alors, ça va être assez paradoxal, mais je vous conseille de pas trop lire de blog et de pas trop regarder des vidéos, puisqu'en fait, ça devient après en fait un vrai problème, c'est-à-dire qu'en fait, tu vas aller consommer beaucoup de temps à lire des contenus plutôt que d'en produire. Donc, il faut vraiment réduire vraiment à la. Au plus court que tu peux, et vraiment à l'essentiel, les articles que tu dois, enfin les articles ou vidéos que tu dois lire. C'est vraiment essentiel. Et même, j'utilise un petit outil qui permet de lire en accéléré les vidéos. Et ça, c'est vraiment intéressant parce qu'autrement, même en x2 ou en x1,5, tu perds beaucoup de temps.
Tu
Donc
avais parlé
voilà.
sur cet outil où tu arrives à faire une lecture en x16?
Ouais, x16, c'est un peu too
Ouais,
much, mais bon.
je
Déjà, x2, parfois, ça suffit largement, surtout quand tu as du blabla et des gens qui arrivent.
Ouais, non, c'est clair.
Donc voilà. Donc déjà, première chose, regardez peu de blogs, peu de vidéos. Et en fait, moi, en fait, ce que j'essaye de faire pour l'inspiration, c'est plutôt me définir une liste de mots-clés. Et en fait, je trouve que c'est plus efficace que. Autrement, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas recevoir une newsletter, dire oh putain, c'est un article, ça c'est ce qui m'est arrivé il y a pas longtemps. Tu reçois une newsletter, dire oh putain, cet article est sympa, mais tu dis ouais, je suis sûr que je peux faire mieux. Et puis j'ai des meilleures idées. Et puis ouais, c'est une bonne idée de faire un article là-dessus. Et tu commences, et c'est ce qui m'est arrivé il y a pas longtemps. Je me dis ouais, putain, je vais écrire l'article. Ta ta ta, je commence à écrire. Je lui dis, mais Fred, top, 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 là. Tu t'es un petit peu trop emporté, tu t'es un petit peu trop excité là-dessus. Tu es en train de faire un article, mais est-ce que c'est en rapport avec ta ligne éditoriale? Et ça, en fait, c'est super important. Si tu n'as pas défini une ligne éditoriale avec qu'est-ce que tu veux faire, tu vas produire du contenu pour produire du contenu. Et donc, ce que je fais, c'est que je me dis, non, Fred, toi, ta stratégie actuellement, tu as trois thématiques ou deux thématiques. Par exemple, moi, c'est le growth hacking, expérience client, LinkedIn, blablabla. Donc, j'en ai défini quelques-unes, B2B surtout. beaucoup. Et donc, je me dis, est-ce que ça c'est en phase avec ta ligne éditoriale? Est-ce que produire cet article, ça va vraiment t'aider à faire du business? Et c'est que déjà là, tu vas sélectionner un peu, tu dis, ah ouais, non, c'est, ah bah non, finalement, c'est vrai que ça va pas m'aider à faire du chiffre d'affaires. Non, ça va pas m'aider, etc., etc. Et donc, ce que je fais, c'est que je me mets en fait dans mon OneNote, ou Evernote, ou Google Keep, enfin, peu importe, ou même un Google Sheets, un fichier Excel, avec une liste de mots-clés prioritaires et sur lesquels, en fait, tu dois vraiment travailler. Par exemple, quand j'ai sorti mon bouquin sur les chatbots, là, il y a quelques temps, et ben, en fait, je me suis mis un plan d'action que j'ai pas encore fini, malheureusement, avec les actualités. Et je dis, bah, voilà, Fred, tu dois être absolument présent sur tel mot-clé sur ce bouquin-là. Donc, projet de chatbot, solution de chatbot, outil de chatbot, et après, tu dois mettre des bonus. Par exemple, là, tu vois, j'ai fait une première checklist pour réussir son projet de chatbot. Et là, dès que j'ai un tout petit peu de temps, je vais mettre un cahier des charges pour réussir un projet de chatbot. Donc, d'un côté, tu dois mettre des outils qui vont, enfin, des articles qui vont permettre, en fait, d'attirer les gens. Et de l'autre côté, tu dois aussi mettre en place les bonus qui vont permettre de capturer les prospects. Et après, derrière, toute la chaîne qui va comprendre ça. Donc, pour moi, il faut véritablement avoir une ligne éditoriale. Et c'est ce qui te permet, en fait, de te disperser et d'écrire de manière efficace. Parce qu'autrement, si tu n'écris pas comme ça, tu vas écrire sur l'inspiration. Et malheureusement, c'est pas optimum. Voilà. Okay. Je recommande l'autre chose, c'est d'avoir ce que j'appelle ce qu'on appelle l'ONTM ou North Star Metric. C'est-à-dire, en fait, tu dois te dire, j'ai un objectif. Et ton objectif, c'est par exemple faire du chiffre d'affaires. Et moi, enfin, chiffre d'affaires ou des prospects, ou on verra juste après justement la différence. Et donc, tu as 7 indicateurs clés. Et cette ligne éditoriale avec ton persona, et tu sais que, et t'as un filtre, en fait. Et tu vas dire, est-ce que produire ce contenu va m'aider dans l'atteinte de mon objectif? Parce qu'en fait, avant, ce que je faisais, c'est que j'avais, en fait, plusieurs métriques. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais le nombre de prospects que je générais tous les jours, parce que je savais que plus j'avais de prospects, ben, plus j'avais de chiffre d'affaires. Deuxième chose, j'avais le trafic du blog. Et donc, je regardais le trafic pour voir si j'ai baissé, si j'ai augmenté, etc. Et le troisième chose, c'est que j'avais le chiffre d'affaires. Et en fait, je me suis rendu compte que parfois, j'allais un petit peu à la simplicité ou les choses que j'avais, je disais, oh putain, mon trafic a baissé, ah, il faut que je produise un petit article, il faut que j'en optimise un. Puis des fois, je me disais, ah putain, j'ai pas eu beaucoup de prospects aujourd'hui, bah, attends, je vais faire un petit relais sur les réseaux sociaux. Et en fait, tu te rends compte que oui, tu as fait ça, tu vas avoir plus de prospects, oui, tu vas avoir du trafic, mais est-ce que tu vas avoir plus de chiffre d'affaires? Bah, pas sûr. Parce que peut-être que si tu fais, par exemple, au lieu de faire relayer sur Twitter un article que tu veux remettre en valeur, peut-être que si tu retweets ou tu mets sur LinkedIn, tiens, voilà, n'oubliez pas ma dernière formation sur, je sais pas, marketing automation, bim, tu feras du chiffre d'affaires. Et donc, en fait, c'est ça qui est le plus essentiel, c'est de dire, voilà, quel est l'indicateur clé? Et c'est plutôt ça. Et donc, j'ai commencé à réduire le scope, de me dire combien j'ai fait de prospects par jour. Est-ce que mon trafic a augmenté? Combien j'ai fait de trafic aujourd'hui? Ah, ok. Combien j'ai fait de chiffre d'affaires? Et ce qui est bien, c'est tous les 3-4 heures, se faire un petit point. Est-ce que ce que j'ai fait me permet de générer du chiffre d'affaires? Et depuis 9 mois, plus de 9 mois, ça fait d'affaires un an maintenant, j'ai aussi un petit fichier Excel que je tiens tous les jours. Et en fait, tous les jours, à chaque date, je me dis, bah alors, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, Fred? Et je mets tout ce que j'ai fait. Et le matin, en fait, j'ai ma to-do list restante, en fait, de bah, quelle va être ma priorité de la journée. Et ce qui est intéressant, c'est que parfois, bah, quand il est, par exemple, il est 10h, 11h, tu dis, bon, voilà, j'ai fini mon truc. Et puis, tu dis, je vais mettre ça dans mon timesheet, hein, dans mon fichier Excel. Et je dis, oh putain, Fred, t'avais prévu de faire ça et t'as fait autre chose. Je dis, oh putain, non. Et là, tu dis, je me reconcentre sur ma priorité et je le fais. Et ça, c'est un petit outil qui est vraiment bien. Et ça te permet en fait aussi de voir comment tu dépenses ton temps et ce que tu dois l'optimiser et éviter justement de te distraire.
Ok. Donc en fait, tu es revenu à une base assez simple en fait de rester ultra focus sur tes tâches qui sont liées à ta North Star Metrics qui est ton chiffre d'affaires. Ok.
Ouais. Après, ça, c'est à titre perso, à titre pro. Le problème, c'est que les gens viennent te demander tellement de choses, tellement de trucs que tu peux être tenté de faire plaisir aux gens ou de gérer ce qui est urgent et pas en fait ce qui est important. Et donc, résultat, si tu commences pas par le plus essentiel, tu avances pas
sur. Tu réponds seulement quand tu en as envie, quoi.
Ouais, et puis des fois, il y a des choses qui sont compliquées à faire et tu dis, bah non, oh, je vais pas faire ça parce que c'est plus simple, et tu te fais plaisir.
Le
Par
pouvoir
exemple, tiens, un exemple pas plus tard que hier, j'ai fait une interview là d'un prescripteur qui nous aide à faire du business et elle m'a dit, tiens, est-ce que tu pourrais pas redécouper ma vidéo, faire ci, faire ça? J'ai dit, bon, allez, d'accord, je vais te le faire. Et en fait, j'ai passé, je dis, oh, ça va me prendre 10 minutes et en fait, forcément, ça te prend 45 minutes. Et tu dis, merde, mais est-ce que ça m'a aidé à faire du business? Et tu te rends compte, bah non, ça n'a pas aidé à faire du business. Et vas-y, bah, ouais, j'aurais dû dire non, ou j'aurais dû dire désolé, je ne peux pas le faire, ou j'aurais dû le sous-traiter, j'aurais dû le déléguer, j'aurais dû dire, bah non, voilà. Donc, et heureusement, quand tu as passé un peu de temps, j'ai mis mon timing, je dis, oh putain, Fred, t'as dit que t'as fait ça. Alors, avant, je mettais même mes heures. C'est-à-dire, je mettais combien de temps je mettais. Et c'était assez sympa parce que tu vois ta productivité dans la journée, tu dis, oh putain, je travaille que ça. Et souvent, en fait, à la fin de la journée, tu dis, oh, péré, j'ai fait que ça. J'ai travaillé, par exemple, 5 heures ou 6 heures sur une journée de 9 heures. Tu dis, mais qu'est-ce que tu as pu faire? Et puis ça, tu dis, waouh. Et c'est là que tu te rencontres. Et ça, je trouve que on se pose pas suffisamment la question.
Non, mais
c'est super important. C'est comme travailler ses priorités. Généralement, moi, je travaille en priorité trimestrielle. Donc, voilà, quel est le focus du trimestre. Et ensuite, sur le mois, voilà, qu'est-ce que je vais faire. Et ensuite, sur la journée. Alors, je pourrais également le faire sur la semaine, mais sur la semaine, c'est dans mes tâches. Et rien que faire ce petit exercice-là permet de travailler dans la durée tes objectifs. Et pas juste être à faire des coups, à dire, tiens, je vais travailler là-dessus. Mais quand tu travailles sur un trimestre, sur une priorité, tu as quand même des résultats concrets.
OK. Est-ce que, puisque tu viens d'écrire un bouquin sur le gros hacking, que j'ai commandé sur Amazon, mais qui, avec le confinement, n'est toujours pas arrivé, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de comment est-ce que tu en es arrivé à faire du gros hacking et peut-être éventuellement même nous partager un hack que tu as utilisé et qui a été, enfin, qui t'a apporté des résultats vraiment satisfaisants. C'est vraiment quelque chose qui, moi, me plaît et c'est aussi l'une des thématiques centrales de ma chaîne. Donc voilà, libre cours à toi.
Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que moi, je dirais que le plus important dans le gros hacking, c'est pas forcément justement les hacks, c'est plutôt en fait la méthodologie. Et c'est ce qui a été vraiment le plus efficace et le plus déterminant pour moi. Parce qu'en fait, les hacks, je pense que j'en mets en place depuis des années, sans que ça s'appelle du gros hacking, parce que, tu vois, quand j'ai lu le bouquin La semaine de 4 heures de Tim Ferriss, ça m'a ouvert les yeux et je me suis dit, oh putain, Fred, il faut absolument que tu prennes une assistante virtuelle, quoi. Mm-hmm. Et c'est là, en fait, que bah, j'avais essayé plusieurs fois et puis j'avais pas réussi à bien déléguer. Et c'est vrai que ça m'a ouvert les yeux et je pense que c'est le meilleur choix que j'ai fait actuellement, puisqu'en fait, tu vois, il y a 2 ans de ça, ma femme était enceinte, elle a accouché, elle a des problèmes de santé. Moi, je me suis pété la gueule en trottinette, j'avais une épaule fracassée. Et on s'est retrouvés à la maison, ma femme à l'hôpital, ma fille qui venait de naître, moi le bras en vrac. Et j'ai quand même réussi à gérer le truc parce que j'avais mon assistante qui répondait aux messages, qui faisait un peu de contenu, mais light de temps en temps. Donc, s'il y a vraiment un truc que je recommande, c'est faire appel le plus tôt possible à une assistante virtuelle et essayer de lui déléguer des petits trucs. Moi, par exemple, elle gère les comptes, elle gère les réponses simples parce que je lui ai donné une grosse FAQ pour laquelle, en fait, elle peut répondre. Par exemple, tu vois, sur mon site internet, il y a un chat. C'est ce que j'appelle, moi, un chat offline. C'est-à-dire que les gens, ils peuvent me poser des questions, sauf qu'en fait, ils mettent leur email et leurs coordonnées, ils envoient le message et au lieu de chatter avec moi, en fait, ça envoie un email à mon assistante et grâce à 80 pages de FAQ, en fait, elle répond directement.
80 pages de FAQ.
Ouais, bah en fait, au début, tu commences par répondre toi-même au chat et tu as tes modèles de réponse. Et quand tu le fais pendant un jour, 2 jours, après, ça y est, tu as un bon modèle. Et puis ensuite, quand elle ne sait pas répondre, elle t'envoie un message et finalement, c'est, au bout d'un moment, tu as tout traité et tu as ton truc, en fait.
Toujours un petit peu les mêmes questions-réponses dans tous les cas. Donc,
Exactement. Et puis après, tu as 5% ou c'est des trucs un peu particuliers. Et c'est vrai que aussi, ça, c'est un truc que j'ai appris. J'avais en fait comme mauvais réflexe de me dire qu'en tant que blogueur, même comme youtubeur, etc., mon devoir, c'était d'aider les gens et de répondre à toutes les questions. Et c'est vrai que j'avais des personnes qui me posaient des questions, mais qui étaient un peu en dehors de ma thématique. Par exemple, j'ai quelques articles sur la gestion de projet, parce que c'est un truc que je fais régulièrement. Mmh. Et en fait, des gens qui me disaient, mais comment je fais pour gérer un projet? Comment je fais pour faire ceci, cela? Et ils me disaient, mais non, mais c'est... Et je prenais du temps avant pour le faire. Et maintenant, en fait, j'accepte accepte de ne pas en fait répondre à 100% des questions et de dire bah non, ça désolé, moi je dois mener un business, je suis pas SVP, je suis pas une plateforme en ligne, et donc en fait les gens ils doivent accepter de se devoir se débrouiller un petit peu tout seul à certaines fois. Donc voilà, donc ça fait partie de mes un petit tips. Donc avoir une assistante, essayer de déléguer des petits trucs, et ça permet aussi de faire des choses un petit peu originaux que tu ne peux pas faire en fait avec des logiciels. Justement, ces petites astuces dont je voulais te parler tout à l'heure, en disant par exemple, tu vois, moi j'utilise Udemy comme plateforme en fait surtout d'acquisition de prospects. Et donc en fait, j'ai quelques mini vidéos là-dessus. Et pour essayer de d'avoir un petit peu de monde, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé à mon assistante de regarder tous les gens qui avaient donné un avis sur des formations sur le marketing digital sur Udemy, et je lui dis tu vas les retrouver ces gens-là sur LinkedIn et tu vas leur dire tiens voilà, je crois que ça vous intéresse le marketing automation, blablabla, je vous offre tel truc ou je vous offre aussi cela. Donc ça, c'est des choses qui sont intéressantes à faire.
Ça a fonctionné.
Alors, bien sûr, tu peux l'automatiser avec des outils comme Phantom Buster qui permettent de faire sur LinkedIn learning, d'avoir une liste en fait des gens qui ont liké un cours et de leur envoyer ensuite un message en disant tiens voilà, je voudrais faire je crois que vous avez liké telle thématique, ça vous intéresse de faire ceci cela. Voilà. Donc l'assistante vraiment te permet de gagner du temps et de faire pas mal de choses et de monter en puissance, parce que de plus en plus tu pourras pas te débrouiller tout seul, ou alors faudra vraiment être comment dire très précis, très pointu dans son activité, parce que y a plein de gens qui noient le web de contenu, de vidéos, etc. Et il faut créer une équipe. Et là, tous les gens que je vois qui ont vraiment pas mal de succès, tu as parlé de Stan Leloup, Mathieu de Penser et Agir aussi qui est bien là-dessus, enfin, tu as pas mal de gens comme ça. En fait, ils ont une équipe, ils sont plus tout seuls, ils ont une équipe de gens qui sont là pour les aider. Par exemple, tiens, aussi Lingen Essia de Solopreneur. Pendant très très longtemps, il était tout seul et il n'avait pas délégué. Maintenant, il a monté une équipe, il a un stagiaire, etc. C'est grâce à ça en fait que tu peux monter en puissance. Et il faut arrêter de se dire que tu peux réussir tout seul sans investir sur le web. Il faut investir dans des outils, il faut investir dans une assistante, il faut investir dans du contenu, du matériel, etc.
L'assistante Sabrina, tu l'as embauchée et tu l'as rencontrée comment?
J'ai testé beaucoup de personnes et en fait, j'ai utilisé des outils comme Fiverr, Upwork ou 5euros.com. Et en fait, ce que tu fais, c'est que tu testes à peu près 5 à 10 personnes et tu leur demandes un petit boulot simple. Par exemple, tiens, est-ce que tu peux écrire un article? Est-ce que tu peux faire telle tâche? Et sur les 5, tu verras, il y en aura un qui sera complètement à la ramasse ou qui fera même pas le job. Tu en auras 2 où ça sera vraiment moyen. Et il y en aura peut-être un ou deux où ce sera à peu près correct. Okay. Et souvent, en fait, vraiment, tu as
des. Ils sont basés à l'île Maurice, du coup ?
Allez, à l'île Maurice, tout à fait. Et les salaires, à peu près. Comment ?
Oui, c'était ma question, justement. Combien est-ce que ça te coûte ? Et est-ce que tu l'embauches à temps plein ou est-ce qu'elle travaille pour d'autres personnes en même temps et auquel cas elle se disperse un peu ? C'est compliqué de.
Alors, en fait, moi, le prix du salaire, en fait, ça varie entre 2,50 euros et 5 euros de l'heure. 5 euros, c'est quand même beaucoup d'argent pour ces pays-là. Ouais. Néanmoins, ça te permet d'avoir quelqu'un qui va bosser pour toi. Il faut quand même savoir que les gens sont quand même à peu près 2 fois moins productifs que toi, de manière générale, ou qu'une assistante française. Donc, bon, l'un dans l'autre, c'est pas si économique que ça. Mais au moins, l'intérêt, c'est que c'est super flexible. Par exemple, Sabrina, elle travaille 7 jours sur 7. Et donc, elle travaille pour moi, je pense, à la moitié du temps. Et donc, je la paye entre 300 et 600 euros tous les mois. On aurait plutôt entre 400 et 700 euros tous les mois. Et je fais que des petits travaux. C'est-à-dire qu'elle va pas, elle bosse pas à temps plein pour moi.
Est-ce que tu lui as donné des accès, par exemple, à des outils ou à ta page Facebook, etc.? Est-ce que... Il y a une part de risque.
Elle a accès à mes comptes LinkedIn, elle a accès à mes comptes Facebook aussi, je crois. Elle a accès à beaucoup, beaucoup de choses, des emails spécifiques. De toute façon, au bout d'un moment, tu peux plus, si tu veux déléguer des choses, il faut accepter, quoi. Par exemple, sur LinkedIn, je l'ai utilisé pendant un certain temps pour faire des prises de contact un peu plus personnelles parce que moi, je travaille beaucoup sur du grand compte. Et par exemple, j'ai organisé une matinée où j'ai invité à peu près une soixantaine de personnes dans le domaine de la banque, mutuelle assurance qui sont venues. Et en fait, ces gens-là, tu vois, c'est pas des gens que tu peux harponner comme ça facilement parce que, en fait, ils ont beaucoup de sollicitations. Et si tu mets monsieur à la place de madame ou prénom à la place de nom, etc., ça se voit.
Cramé,
et donc, en fait, il faut Ouais, t'es cramé. Et puis comme c'est pas beaucoup de gens, c'est un petit milieu, si tu fais n'importe quoi, tu te feras avoir. Donc, ok, la première prise de parole peut se faire avec un message automatique, mais la deuxième prise de parole doit se faire à la mano. Et donc, en fait, bah, je lui ai demandé de faire comme ça des petites tâches là-dessus.
Et de lui donner tes logs de connexion, ça t'a pas fait peur?
Au début, oui, mais en fait, au final, bah, non, parce qu'en fait, tu travailles quand même en bonne intelligence là-dessus. Et puis bon, c'est quelqu'un avec qui j'ai bossé pendant un bon moment, quoi.
Ouais, d'accord.
Ça
Ok.
fait quand même, ouais, 3 ans qu'on bosse ensemble. Alors oui, et juste pour finir, donc là, je t'ai parlé de mon assistante parce que je trouve que c'est le truc le plus important. Mais comme je le disais, ce qui est plus important, c'est d'analyser ton business avec le schéma AAR pour savoir où tu dois agir en priorité. Et c'est ça qui était le plus efficace pour moi, pour vraiment savoir où je devais agir en priorité sur mon site. Parce que des fois, tu dis, est-ce que c'est sur la conversion, est-ce que c'est sur le trafic, etc. Et c'est vrai que je l'ai fait il n'y a pas encore très longtemps. Et en fait, ça m'a permis comme ça de booster mes conversions facilement parce que tu prends le temps de te poser les bonnes questions, à savoir d'où viennent mes prospects, est-ce que j'ai le bon trafic, est-ce que ceci, est-ce que cela. Et ça te permet vraiment de faire un point et rapidement de prendre des actions. Et même au boulot, je mets ce même principe-là en disant, voilà, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'on peut améliorer, etc.
Ok, top. On peut passer à la cinquième partie qui sont le trafic de ton blog et ton chiffre d'affaires. Est-ce que tu peux nous communiquer quelques chiffres en termes
Oui.
d'évolution de trafic et de chiffres? Est-ce qu'il y a eu des actions que tu as mises en place qui ont eu vraiment un impact significatif par rapport à tes objectifs? Vas-y.
Alors en fait, pour le trafic, tu sais, tu peux regarder sur SEMrush ou d'autres outils hein, qui montrent en fait une
Des stats,
estimation du trafic.
des stats.
Tu verras en fait que oui. Et donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que bah, quand j'étais consultant, il a décollé. Il y a 3 ans, je crois que je bosse pour une boîte. Donc à mi-temps, et forcément, le trafic, il en a pris un bon coup parce que le blog n'est plus la priorité principale. Et forcément, de trafic, le chiffre d'affaires n'a pas trop bougé. J'ai à peu près 40 000 euros de chiffre d'affaires à l'année. Mais comment je fais ça? C'est-à-dire que j'ai travaillé sur un, la conversion, donc le chaîne de marketing automation, formulaire sur le site internet, mais également les produits que j'ai à vendre, mais également aussi l'affiliation, parce que je fais pas mal d'affiliation aussi sur des bons produits, comme par exemple SEMrush, qui est un super outil. Et donc, en fait, ça me permet de compenser. Donc, malgré une baisse de trafic, je pense que j'ai dû prendre 25% ou 30% parce que tu n'es plus à plein temps. Et ben en fait, le chiffre d'affaires reste toujours à peu près flat. Le résultat est un peu moins bon parce que ben, forcément, quand je le fais pas moi-même, je le délègue. Et donc, ben, j'ai un peu plus de frais. Mais grosso modo, voilà, je pense que c'est plus important de travailler sur la conversion et l'augmentation du revenu que d'aller tout le temps courir, courir, courir sur du trafic.
D'accord, ça marche. On arrive à la fin de cette interview. Je vais te poser trois questions pour finir. La première, est-ce qu'il y a quelque chose que tu, une seule chose que tu changerais si tu pouvais repartir de zéro avec ton site? Donc si tu revenais en 2006, est-ce que tu modifierais quelque chose dans ta stratégie?
Ah, bah, il y a plein de choses.
La deuxième question, c'est est-ce quel est le dernier bouquin que tu as lu que tu recommanderais? Et la troisième, c'est quels sont tes objectifs là pour les prochaines semaines, prochains mois avec le confinement pour justement avoir un impact significatif sur ton business?
Alors, la première chose, si je devais revenir en arrière, je pense que j'aurais, parce que j'aurais fait plusieurs actions.
C'est pas facile comme question.
Bah ouais, parce qu'en fait, je pense que j'aurais mieux priorisé mon persona et essayé de travailler mieux la conversion pour vendre plus de choses plus facilement. En fait, à la création de mon blog, j'ai essayé de faire un blog qui était, je me fais passer pour une agence, toi, conseil marketing, c'était pas Frédéric Canevet. Et en fait, j'ai personnalisé le blog il y a 5 ans et je pense que c'est ce qui permet d'avoir un meilleur relationnel. Donc, si j'avais une chose à faire, j'aurais mieux ciblé. J'avais pas fait conseil marketing, mais c'est ce que j'ai fait déjà il y a quelques temps, mais conseil marketing plus orienté B2B. Et j'aurais essayé de convertir mieux et vendre des choses et pas faire un blog où je pousse des infos. Voilà, la ligne éditoriale, c'est vraiment essentiel. Voilà. Ligne éditoriale, persona, conversion et trafic, quoi. Voilà,
Ou le
ça
fait de
c'est.
mettre en scène ta personnalité, le fait de te présenter à ton audience comme Frédéric Canvet et non pas juste conseil marketing, ça a une, enfin, tu crées une relation de confiance plus importante avec tes personnages et ça augmente toujours.
Alors, ouais, il y a la relation de confiance. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, les gens considèrent un blogueur comme un journaliste. Et donc, en fait, ils veulent pas, en fait, enfin, ils ont pas, enfin, t'es pas une agence. Donc, en fait, ils vont pas te contacter pour faire de la presta. T'es pas un freelance. Donc, ils vont pas te contacter non plus pour, comment dire, te proposer leur service, enfin, juste prendre tes services. Mais ils se disent, bah non, t'es un média. Et un média, en fait, bah, il est là pour répondre à toutes tes questions et donner des infos, puis c'est merci, au revoir. Donc, en fait, c'est pour ça qu'il ne faut pas bloguer sur une thématique, mais vraiment bloguer pour une cible et annoncer dès le départ bah, qu'est-ce que tu proposes, l'accompagnement, l'aide et tout ça. Chose que je n'ai pas fait, puisque beaucoup de gens disaient, bah oui, bah, c'est un super truc d'actu, ok, merci, j'ai les infos, je pars.
Ok.
Et c'est pour ça qu'il faut essayer de mettre des bonus pour récupérer
Ouais.
les coordonnées et les mettre dans une chaîne,
Vous,
etc.
t'as mis des lead magnets systématiquement dans chacun de tes articles?
Ouais.
Ouais.
En fait, j'utilise un petit plugin qui s'appelle WP Ad Inserter Pro,
Ok.
qui coûte 50 ou 100 $, je ne sais même plus. Et en fait, ce petit plugin, en fait, permet de choisir selon les catégories, voire même selon l'article, de te mettre au début du blog, à la fin de l'article de blog, au milieu, dans le texte, à X%, un formulaire que tu veux. Alors après, le truc un peu pervers de ça, c'est que si tu as des articles qui sont très courts et tu as le bonus qui apparaît en plein milieu, boum, ça fait un peu massif. Mais
Ouais.
pour les articles qui sont longs, ça suffit, je trouve que ça fait un bon effet, ça te permet d'avoir des bonus contextualisés. Alors
D'accord.
normalement, on doit pouvoir le faire avec Thrive Team, Thrive Leads hein, de Thrive Team, mais je préfère ce petit plugin-là qui est quand même plus souple et qui permet d'afficher plus de choses en plus en excluant des pages ou des choses comme ça.
Très bien.
Donc après, tu m'as dit le bouquin. Alors, c'est vrai que choisir un bouquin, c'est pas simple. Ben, je vous donnerai moi, j'utilise beaucoup Audible pour écouter l'audio.
Ouais.
Donc ça, c'est vraiment important. Et le premier, c'est Ne coupez pas la poire en deux de Chris Voss, qui est un bouquin sur la négociation. C'est un négociateur du FBI et qui rappelle un peu comment on doit négocier. Et ça, c'est vraiment intéressant parce qu'en fait, ça te servira dans ta vie de tous les jours. Donc ça, c'est vraiment bien. Et le
OK.
deuxième bouquin que bah, je vous recommanderais, c'est Posez-vous les bonnes questions, changez votre vie. Et c'est un bouquin qui est vraiment bien parce qu'il permet justement de revoir en fait les bonnes choses, et éviter le truc, mais pourquoi ça m'arrive qu'à moi? J'ai vraiment pas de chance. Et parfois, en fait, un peu dans cet aspect culpabilisation, cet aspect c'est pas moi, c'est les autres. Et là, on se repose les bonnes questions, en disant, au lieu de dire c'est pas moi, j'ai pas de chance, on dit mais qu'est-ce que je peux faire pour faire ça? Et tout de suite, on change la dynamique, on change la posture, et c'est vraiment plus sympa. Et
OK.
dernier point, qu'est-ce que je vais faire pendant le confinement? Bah, j'essaie de reprioriser les choses parce que avec la famille, le blog, le pro et tout ça, c'est compliqué de tout gérer. Et donc, bah, c'est se dire qu'est-ce qui va vraiment apporter du business. Et là, essayer vraiment de prioriser mes affaires. Voilà, ça c'est vraiment le plus important.
Et on entend ta fille qui se réveille, donc ça tombe à pic pour la fin de cette interview.
Ouais.
Super. Bah écoute, merci infiniment Fred pour tous ces conseils. C'était super d'avoir cette conversation avec toi.
Pas de
Si vous
souci.
souhaitez en savoir un peu plus sur Frédéric, vous pouvez très bien aller sur le site de Conseil Marketing et sur sa chaîne YouTube. Je vous mets tous les liens évidemment en description, juste en dessous de cette vidéo. Et bah à bientôt.
À bientôt,
Bon courage pour
ciao
le confinement. Salut Fred.
ciao.